Bonjour à tous et bienvenue dans Bistro Vélo. Vous l'aurez constaté, si vous êtes un fidèle de l'émission, ce n'est pas Colin Bourjat, c'est Simon Farvac. Je remplace Colin au pied levé. Il présente les championnats d'Europe de cyclisme sur piste sur l'antenne. Le programme a pris un peu de retard, on ne voulait pas imposer ce retard à notre invité du jour. Donc, je prends le relais pour ce Bistro Vélo, dont voici le menu. Mise en bouche indinoise. Vous verrez que c'est une référence à la dernière victoire en date de notre invité. Assortiment de Normandise, cette fois-ci, cela fait écho à ses origines. Et pour finir, comme traditionnellement, le dessert du jour. Un dessert que nous allons partager avec notre invité, Guillaume Martin. Salut Guillaume.
Salut.
Alors, comment ça va Guillaume aujourd'hui, en ce lundi, en ce lendemain de Polynormande, terminé quatrième, et en cette veille de Tour du Limousin, ça s'enchaîne bien pour toi, les courses, ça ressemblait à quoi ta journée ?
Oui, en ce moment, les courses s'enchaînent, programme franco-français. Ça a été, bon, on avait un peu de route entre la Normandie et les Limousins, donc on a fait une partie de la route hier soir et on a fini la route ce matin. Petite sortie à vélo en début d'après-midi, une petite sieste. On a regardé un peu les différents championnats d'Europe qui a en ce moment à la télé. On n'a pas grand-chose d'autre à faire et voilà, du repos avant de prendre le départ du Tour du Limousin demain.
Cette quatrième place sur la Polynormande, d'ailleurs, c'est intéressant parce que si on te catalogue grimpeur, c'est pas forcément non plus les plus grandes hauteurs du pays. T'aimes bien, toi, essayer de briller sur tous les terrains, ne jamais prendre le départ d'une course sans vouloir te montrer à l'avant?
En tout cas, j'aime pas prendre le départ d'une course en me disant je vais pas pouvoir peser sur la course, j'ai aucune chance de gagner. Donc voilà, en plus là j'étais à domicile devant mes supporters, donc j'avais à cœur de bien faire et après c'est sûr que voilà, il y avait pas de col loin de là, mais je crois que ça a été une course très très difficile avec j'étais dans l'échappée, on a jamais eu plus d'une minute d'avance et à l'usure en fait, c'est des courses qui sont quand même très difficile. Après, pour moi, il me manque une pointe de vitesse souvent pour gagner ces courses-là, mais par contre, pour être acteur et faire des places d'honneur, je prends plaisir. Ouais.
Tu as été battu, entre autres, par Franck Bonamour au sprint sur cette course. Là où tu n'as pas été battu, c'est au Tour de l'Ain. On t'a vu t'imposer lors de la deuxième étape et au classement général. La deuxième étape en attaquant à 1,5 km de l'arrivée. Et par contre, la troisième étape, fallait faire marcher les neurones pour faire les petits calculs. On t'a vu d'ailleurs sur Eurosport, c'était marrant, parler à l'oreillette, faire les calculs, parce qu'il y avait plusieurs étages de la course à surveiller. Comment tu l'as vécu maintenant avec un tout petit peu plus de recul, cette troisième étape qui t'a permis de remporter le Tour de l'Ain?
Moi, sur le terrain, j'étais relativement serein et confiant parce que j'avais de bonnes jambes. Donc, j'étais assez confiant dans le fait que personne pourrait me lâcher à la pédale. Et je savais que je pouvais compter sur une équipe solide, capable de gérer la course, qu'ils ont très bien fait. Après, voilà, fallait jouer un peu sur des œufs, effectivement. Et mon intérêt était de ne pas arriver pour les bonifications. Donc il y avait deux coureurs, on allait ressortir deux coureurs, j'ai laissé ressortir deux coureurs à dessein. Alors il fallait pas revenir sur eux, mais il fallait quand même rouler assez vite pour revenir sur le coureur de Movistar qui était à l'avant depuis le début de la journée. Donc c'était assez fin comme stratégie, mais au final les comptes étaient bons.
Surtout qu'il y avait George Bennett intercalé. Donc ça rajoutait encore une difficulté dans l'équation. Et comme tu dis, les comptes étaient bons. Pour Cofidis, ils sont bons pas que pour toi, parce que dans le même temps, sur l'Arctic Race of Norway, il y a Axel Zingle qui a gagné une étape en remportant un sprint en boss. Il y a Victor Laffey aussi qui s'est mis en évidence. Bon là, il n'y a pas eu la victoire au classement général. Mais quand même, globalement, on sent une équipe Cofidis sur une bonne dynamique, non ?
Oui, là on vient de faire une super super semaine en termes de résultats, en termes de ces fameux points UCI qui nous préoccupent tous. Donc ça, voilà, ça donne un peu d'air d'un point de vue comptable et puis ça enclenche une dynamique positive dans l'équipe. Ça, c'est important. Là, il y a beaucoup de courses importantes qui vont arriver et donc maintenant il faut embrayer là-dessus et Et voilà, mais on a aussi un effectif assez complet. Je pense que c'est la force de Cofidis cette année d'avoir, de pas se reposer seulement sur un, deux ou trois coureurs, mais d'avoir vraiment tout un pool de coureurs capables de scorer. Donc, voilà, on a pas mal d'armes pour ce Tour du Limousin et pour les courses ensuite.
Tu parles des points UCI, donc ça c'est pour l'avenir. Et c'est important pour toi l'avenir avec Cofidis parce que tu as prolongé 2024, c'est ça maintenant? Tu es lié avec
Oui,
l'équipe jusqu'en 2024?
j'ai prolongé de 20.
Est-ce que tu as eu d'autres offres? Est-ce que tu as douté ou c'était une évidence pour toi de rester au sein de ce collectif?
Non, j'ai hésité, j'ai eu d'autres propositions et je me suis posé des questions parce que à chaque fois, quand on est professionnel, qu'on prend la décision de signer un nouveau contrat, on se rappelle toujours qu'une carrière est courte et que c'est des décisions. Donc, j'ai bien pesé le pour et le contre de tous les côtés. Et le choix de continuer avec Cofidis m'a semblé le meilleur. Mais je pense que c'est normal de se poser des questions parce qu'une carrière, c'est court, c'est important et il faut réussir à être dans les meilleures dispositions en termes de performance sportive et puis psychologique également.
Comment tu juges d'ailleurs ta progression au sein de l'équipe Cofidis? Ce qu'on voit, c'est un coureur déjà extrêmement régulier. On a préparé avec Marco Popovic et Antoine Le Breton à la réalisation une infographie. 28 fois dans le top 20 sur 30 courses par étape. Alors le top 20, ce n'est pas très parlant, ce n'est pas forcément le plus clinquant, mais ça montre quand même que tu es toujours là d'une certaine manière. Tu tiens à cette régularité ou tu l'échangerais bien contre quelques victoires, des hauts et des bas un peu plus marqués?
Je crois qu'il faut faire avec sa nature. Moi, ma nature, c'est de pas abandonner, c'est d'être toujours à l'attaque, toujours présent, toujours à se bagarrer. Et je suis aussi fier de ça. Aujourd'hui, ou peut-être dans notre société actuelle, c'est pas, on a peut-être plus d'attirance pour ce qui brille, pour ce qui est clinquant, donc effectivement pour ce que vous appelez des hauts et des bas, mais je trouve qu'il y a une certaine noblesse aussi dans le fait d'être toujours présent.
Tu dis que c'est pas ton genre d'abandonner, que c'est difficile pour toi. Le tour, tu as dû l'abandonner sur un contrôle positif, alors que tu te sentais capable de continuer, un contrôle positif au Covid-19. Comment tu as vécu cet abandon forcé et la suite du tour?
Bah assez mal, enfin pour être honnête, la suite du tour, j'ai regardé 10 km du col du Granon et ça a été trop dur et j'ai pu regarder un seul kilomètre jusqu'à la fin. Quand on en parlait à la radio ou à la télé, je changeais de chaîne. Donc ça a été assez difficile à vivre parce que j'avais quasiment pas de symptômes, parce que je me sentais super bien et que je me sentais capable de continuer en restant à un très bon niveau. Donc voilà, ça s'est arrivé très très vite. Je pensais, bon, quand je me suis fait tester, je pensais pas le lendemain matin être obligé de repartir. Donc non, ça a été dur à vivre. C'est aussi encore un protocole que j'ai du mal à comprendre, qui était un peu flou, qui me semble toujours l'être. Ça a été difficile à vivre, je vais pas le cacher.
Qu'est-ce qui te semble peut-être incohérent dans ce protocole qui est mis en place?
Bah déjà, en fait, c'était évidemment le soir où j'ai été testé positif, j'ai analysé bien en détail les lignes et le protocole, et en fait, c'est soumis à l'interprétation des différents médecins de l'équipe, ASO et du CI. Donc, il n'y a pas de critère précis qui dit que on doit se retirer ou on peut continuer si on est asymptomatique, et je l'étais plus ou moins. Et puis l'autre chose, c'est que si j'avais eu la grippe, la gastro de manière sévère, si j'avais été voilà, vraiment cloué au lit, j'aurais pu théoriquement continuer, j'aurais été autorisé à continuer. Alors que avec un Covid très très léger, j'étais obligé de partir, sachant que voilà, aujourd'hui le Covid n'est plus le Covid qu'on a connu il y a quelques années où, enfin voilà, je suis triplement vacciné, et le principe du vaccin, c'est justement de faire des formes très légères. Donc voilà, après il y a sans doute un peu d'égoïsme évidemment dans ce que je dis, enfin voilà, d'un peu de ressentiment personnel lié à cette déception sportive. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'émotionnellement, moi, je l'ai vécu.
Et dernière question sur cet aspect-là, la part d'interprétation que tu évoques, est-ce qu'il y a une sorte de défiance dans le peloton en se demandant, en gros, est-ce qu'une superstar du peloton va être jugée de la même manière qu'un coureur lambda? Ou tu ne penses pas qu'il y ait des enjeux de ce type-là, même économiques, derrière, et que là, on extrapole?
En tout cas, voilà, il y a des soupçons, des rumeurs. Moi, j'ai pas d'éléments concrets à apporter, donc je vais pas me permettre de me prononcer là-dessus.
D'accord, je comprends très bien d'ailleurs, d'autant plus que bah on fait avec les infos qu'on a et on fait avec les règlements. Et pour toi, c'était un Tour de France qui s'est achevé malheureusement d'une triste façon, relativement, hein, c'est juste dû abandonner. Sur le Giro, on t'a vu par contre là te battre aussi longuement dans des échappées, ce que tu évoquais, ton tempérament qui ne change pas d'être offensif, etc., d'avoir peut-être des fois du mal à se dégager de l'espoir de faire un bon classement général. Comment tu l'as vécu ce Tour d'Italie là? On voit des images en même temps qu'on en discute avec toi où tu es échappé avec Mathieu Van Der Poel. Tu as pris du plaisir sur ce Giro que tu découvrais?
Oui, alors après, c'était vraiment bizarre comme course, si j'y repense avec un peu de recul. J'ai eu des moments où j'étais très bien, c'est échappé avec Van Der Poel par exemple. Il y a eu aussi la dernière semaine, un jour où à la pédale, je bats tous les favoris, Carapace, Landa, etc. Et d'autres moments où j'ai eu vraiment des trous. Pour le coup, j'ai pas été très régulier. Donc c'était un peu étrange pour moi et donc j'ai pas le sentiment d'avoir fait un mauvais Giro ou que mon niveau était vraiment très mauvais tout le temps, mais il y a eu ces trous, peut-être dû au fait que j'ai pris la course un peu à l'envers en voulant rattraper du temps, peut-être pas au moment opportun, mais toujours est-il que voilà, le résultat il était décevant. Je venais pas pour ça, je venais pour mieux.
Oui, c'est vrai, d'ailleurs, tu avais quasiment présenté des excuses au niveau de l'équipe. C'était plus qu'une blessure personnelle. Quand on est leader comme ça, quand on a des coureurs qui se donnent à fond pour soi, ça rajoute une dose de pression sur les épaules.
De pression, je sais pas, parce qu'après la pression, à un moment on a assez, on va plus en rajouter, hein. Et puis on sait vivre avec. Mais en tout cas, une certaine forme d'exigence envers soi-même. Et voilà, après, on veut toujours faire le mieux, avoir les meilleurs résultats, et on met beaucoup de choses en place à titre individuel, avec des stages, mais donc aussi l'équipe met des choses en place pour vous entourer, et voilà, parfois ça marche et parfois ça marche pas. Après, c'est le jeu du sport, et là aussi y a rien non plus de dramatique,
De
bien sûr.
gravissime. Oui. Donc c'est un live Facebook. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Guillaume. Je regarde, là vous êtes déjà plusieurs à en avoir posé. Je vois que Jérôme te demande notamment, est-ce qu'une sélection au championnat du monde pour la fin de saison est un objectif pour toi, Guillaume, ou pas?
Pas forcément, je pense que le parcours est pas forcément celui qui me convient le mieux. C'est pas, enfin, je l'ai pas analysé en détail, mais ça m'a pas l'air extrêmement dur. Et en plus, avec ces fameux points, je pense que l'équipe attend aussi que je sois présent pour scorer pour l'équipe, pour Cofidis. Et donc, un voyage en Australie, forcément long, forcément avec le décalage horaire. Ça risque de forcément faire pâtir mon équipe de marque.
Justement, tu parles des points à aller chercher pour Cofidis. Tu sais à peu près à quoi il ressemble le programme de ta fin de saison?
Alors oui, je donc là après le Tour du Limousin, je devrais être au départ du Grand Prix de Plouay, ensuite du Tour du Doubs, ensuite des deux courses au Canada, Québec et Montréal, et puis je finirai en Italie et peut-être même à la Japan Cup toute fin de l'année. Ouais.
D'accord, donc un programme chargé pour la fin de l'année 2022.
Beaucoup de courses d'un jour. Hein.
Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, on va inviter quelqu'un virtuellement pour qu'il vienne te poser une question. C'est un de tes coéquipiers, c'est Anthony Pérez.
Alors Guitos, petite interro surprise. Quel est le palmier le plus rustique entre un Trachycarpus, un Butia et un Sica? Voilà. T'as 10 secondes. À plus.
Alors là, on sort du cadre sportif avec cette question.
Oui. Alors, pour pas faire trop faux, peut-être qu'on doit dire aux téléspectateurs que en fait, j'avais pris connaissance de la vidéo avant. Je l'ai pas vu en direct pour des raisons techniques, mais je me rappelle bien que Anthony m'avait demandé effectivement essayer de me coller en termes botaniques, et ça remonte un peu au Giro cette histoire-là. C'est justement pendant le Giro, lui est passionné de palmiers et il m'avait appris beaucoup de choses, je dois dire, sur différentes espèces de palmiers, et notamment sur le Trachycarpus, qui me semble être l'espèce la plus rustique parmi les palmiers, si je me rappelle bien. Donc, moi, je suis originaire de Normandie, donc les palmiers, on peut en trouver un peu sur les côtes, c'est pas forcément la région la plus adaptée. Et donc, j'ai beaucoup bénéficié de ces informations d'experts, de spécialistes sur le sujet, comme quoi évidemment qu'on ne parle pas que de vélo, on ne parle pas non plus que de philo dans une équipe de vélo, mais on parle de tous les sujets.
Justement, tu dis qu'on ne parle pas que de vélo, pas que de philo. Je me pose cette question quand je vois ton évolution. C'est une question que je me posais par exemple avec Primoz Roglic. On l'appelait souvent l'ancien sauteur à ski, etc. Parfois, on a une image comme ça qui peut coller à la peau. Toi, tu es arrivé, on a dit que c'était le philosophe du peloton. Est-ce que c'est quelque chose, tu es content d'avoir un surnom comme ça, ou est-ce que tu veux qu'un jour on te juge juste sur tes performances sportives? Pas de surnom, et c'est Guillaume Martin qui est top 5 ou top 10 des meilleurs coureurs au monde.
Après, les surnoms, c'est rigolo, mais c'est toujours un peu cliché. Donc, justement, enfin, je suis content que quand on me pose pas de questions sur la philo, ça me fait un peu des vacances parce que j'en ai déjà répondu à pas mal. Et quand je fais du vélo, je fais avant tout du vélo.
Et ça fait du bien d'exister par autre chose que. C'était un peu cette porte d'entrée quand on t'a découvert, quoi. Mais bon, ça fait quand même cette saison maintenant, cette SEPT, que tu es au niveau. Donc, effectivement, il y a peut-être le tour de la question qui a été fait.
Oui, je pense, et puis je pense, sans être prétentieux, qu'en tant que coureur cycliste, il y a peut-être assez de choses à dire sur les performances sportives sans avoir besoin d'aller chercher cet autre angle.
Et c'est exactement pour ça que je faisais cette comparaison avec. Roglic, justement, parce que je m'étais dit ça à un moment, il y a eu une bascule
Ouais,
où,
il est un peu plus
voilà,
qu'un sauteur à ski, qu'un ancien sauteur
on
à ski
disait plus
aujourd'hui,
l'ancien
Primoz
sauteur à
Roglic.
ski, on disait juste il a gagné 150 courses, enfin, j'exagère
Voilà.
exprès. Deuxième partie de l'émission, donc, assortiment de Normandie, tu l'as rapidement évoqué, tu es originaire de Normandie. Bon, il n'y a pas d'exil au soleil prévu pour toi, tu es attaché à ta région.
Pourquoi je m'exilerais au soleil puisqu'il y en a déjà en Normandie? Quelle question bête!
T'es
Malheureusement,
attaché.
il y en a même un peu trop,
Oui, là je crois
malheureusement,
qu'il y en a un peu
comme
trop dans
partout
beaucoup de régions
en
françaises
France.
actuellement. Oui.
Et là, il a plu à la Pauline Normande et je crois que tout le monde était content qu'il pleuve. Ouais.
Ah oui, c'était un changement de braquet en termes atmosphériques ce week-end, effectivement. On a entendu, enfin j'ai lu dans la presse que éventuellement t'envisageais un seul grand tour sur la saison 2023. Est-ce que c'est acté ou ça reste à définir?
Ça reste à confirmer. Enfin, c'était acté avant ce tour. Enfin, parce que cette saison, il était prévu que je fasse deux grands tours complets. J'en ai fait un et demi, mais je pense que voilà, à un moment donné, ça fait 3 saisons que j'enchaîne deux grands tours, des saisons quand même vraiment pleines, beaucoup de jours de course, pas d'abandon. Donc, je pense qu'en réfléchissant sur le long terme pour me préserver et pour pour que je réussisse justement à atteindre mon meilleur niveau, il faut peut-être réussir à décélérer à un moment donné et en faire un petit peu moins pour faire mieux. Donc c'était dans cette perspective-là qu'avec Cédric Vasseur, qu'avec le staff de l'équipe Cofidis, on avait plutôt tablé sur le fait de faire un seul grand tour l'an prochain. Et donc très probablement le tour.
Très probablement le tour par nécessité pour le sponsor, par attache. À titre
Oh,
personnel, quel est le
par goût
grand tour
aussi,
qui...
par goût aussi.
D'accord, c'est quand même le grand tour qui t'attire le plus.
Bah, je pense que le tour, il y a plein de côtés un peu qui peuvent paraître repoussants, mais quand on prend un peu de recul, c'est quand même une course qui dépasse toutes les autres. Il y a le cyclisme et puis il y a le Tour de France. C'est quand même quelque chose de vraiment à part et qui génère aussi des émotions positives et négatives à des autres pareils.
D'ailleurs, pour revenir sur le Tour de France, on a bien compris qu'on devait rayer la question sur qu'as-tu pensé de la fin avec le duel Pogacar-Vingegaard parce que tu n'y as pas tant que ça assisté. Mais est-ce que le Tour de France, cette fois-ci version pendant féminin, tu l'as suivi ou tu t'es pas trop intéressé à cette épreuve nouvelle pour ASO?
Si, j'ai plus regardé. J'ai plus regardé parce que c'était nouveau, parce que ça me semble être une belle avancée, parce qu'il y avait aussi une équipe Cofidis féminine au départ. Alors après, j'étais en course en même temps au circuit de Wallonie, donc j'ai pas pu suivre autant peut-être que je l'aurais voulu, mais non, en tout cas, j'ai pris plaisir à suivre la course. C'est vrai que je dois admettre que le cyclisme féminin, je connaissais, je connais encore assez mal, mais je pense qu'il est en plein essor et c'est évidemment très bien. Et je pense que dans les années à venir, ce boom va continuer et c'est évidemment pour le mieux. Enfin, c'est simplement un retour à la normalité.
Je continue de regarder, hein, il y a de nombreuses questions, dont une d'Alain. Est-ce que pensez-vous, dit-il, avoir le potentiel de gagner une course à étapes du World Tour? Il évoque les courses d'une semaine, notamment Dauphiné, Tour de Suisse. Ça fait partie des objectifs d'en claquer une belle comme ça?
Oui, je pense que ça peut, voilà, si les astres s'alignent, ça peut être dans mes cordes. J'ai déjà terminé troisième d'un Dauphiné en 2020, d'ailleurs une émission très relevée. J'ai terminé assez régulièrement dans les top 10 des classements généraux de ces courses d'une semaine. Donc, ça peut effectivement être un bel objectif de carrière. Ouais.
Ta carrière, justement, tu en parles et ça fait 7 saisons maintenant, 7e saison professionnelle. Est-ce que tu as eu l'impression que le cyclisme évoluait? Parce que quand on le voit de l'extérieur, peut-être pour le grand public, chaque année, on a eu l'impression, là, pendant 3-4 ans, que sur le Tour de France, c'était le plus jeune vainqueur depuis je ne sais combien d'années, Bernal, Pogacar, Evenepoel aussi, qui gagne au plus haut niveau. Le cyclisme, selon toi, ça reste un sport à maturité plutôt lente et il y a des phénomènes qui viennent un peu biaiser nos analyses, ou est-ce que ça devient un sport à maturité de plus en plus jeune pour d'autres raisons?
Non, je pense que oui, il y a un peu une révolution culturelle et à mon avis, c'est dû au fait que chez les juniors, peut-être même chez les cadets, les coureurs s'entraînent de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus professionnelle peut-être déjà, ce qui fait que ils arrivent déjà à une certaine forme de maturité physique à 19-20 ans, alors que moi, à cet âge-là, j'étais loin de pouvoir exprimer l'entièreté de mes capacités. Donc après, est-ce que à 20 ans ils ont la même marge de progression que celle que j'avais moi à 20 ans? Je sais pas, j'espère pas. En tout cas pour les quelques années qui
Parce
suivent et qui me
que
restent
Evenepoel,
en tant que professionnel,
ce serait effrayant, Evenepoel, là.
ce serait effrayant effectivement. En tout cas, oui, c'est sûr que depuis que je suis professionnel, le niveau d'ensemble me semble avoir évolué. Enfin, ça, maintenant, on a des capteurs de puissance, des données de puissance qui nous permettent d'objectiver ça. Et avec les puissances qu'on faisait en, enfin, qu'on fait aujourd'hui, les puissances que je fais aujourd'hui, j'aurais gagné beaucoup plus de courses en 2016, 2017, voire 2018.
Pour revenir sur l'âge de ces jeunes coureurs qui prennent le devant de la scène, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui de donner un maillot blanc et de considérer donc qu'on est un jeune coureur jusqu'à 25 ans, quand certains coureurs peuvent briguer ce fameux maillot blanc 5 années de suite potentiellement? Tu penses qu'il faudrait revenir là-dessus sur ce règlement ou attendre de voir quand même si ça perdure un petit peu cette tendance?
Oui, c'est ça. Peut-être attendre un petit peu, se demander si c'est pas quand même un peu générationnel et si c'est vraiment une tendance de fond. Mais oui, pourquoi pas redescendre la barre à 23 ans au lieu de 25, quoi. Je n'ai pas trop d'avis sur la question en même temps.
Pour continuer de parler des technologies, parce que tu disais que ça jouait beaucoup dans cette tendance, il y a Pierre-Luc Perrichon qui nous a envoyé une question pour toi. Alors, est-ce que c'était de l'ironie ou pas? Est-ce que Guillaume Martin est un peu geek sur les bords? On vous fait écouter sa question.
Salut Guillaume, bah écoute, j'espère que tu vas bien. Encore une fois, félicitations pour l'enchaînement Tour de l'Ain et Pouilly Normande. Écoute, est-ce que tu peux expliquer aux spectateurs ta passion pour les nouvelles technologies et plus particulièrement les jeux en réseau? Voilà, comment t'occupes tes soirées sur les grands tours et sur les courses de plusieurs jours? Allez, débrouille-toi avec ça, grand. Ciao, bon courage pour l'émission et bonjour à l'autre Guillaume. Salut, salut.
Alors, Guillaume Martin, fan des nouvelles technologies et des jeux en réseau ou pas?
Pas plus que ça, pour être honnête. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'arrive pas à voir les vidéos en même temps que vous. Non, je suis un peu old school à ce niveau-là et c'est pour ça que je m'arrange souvent pour être en chambre avec Pierre-Luc justement qui lui est un peu inspecteur gadget sur le sujet et peut souvent me dépanner quand j'arrive pas à me connecter à quelque chose ou quand quelque chose d'informatique ne marche pas, j'ai l'impression que j'attire tous les problèmes informatiques. Lui, il est super doué là-dessus, je crois que c'est sa formation. Donc, je crois que sa question, c'était aussi ce qu'on faisait les soirs après les repas pendant les courses. Et ben, par contre, si j'ai quand même réussi après quelques essais à jouer au rami en ligne, on joue au rami en ligne entre les différents coureurs de l'équipe. Mais voilà, il y a certains soirs où c'est à la place du rami, c'est plutôt d'autres jeux vidéo plus jeunes entre guillemets et donc là moi je participe pas à ça, je reste dans le club des anciens, j'en reste au rami.
Plus performant donc peut-être sur la route qu'en termes de jeux vidéo, peut-être Antoine le
Je pense,
Breton.
ouais, mais même sur la route en termes de technologie, de matos,
Ah même là.
vraiment là le mécano de l'équipe, les mécanos de l'équipe peuvent en témoigner, je suis loin d'être à la pointe.
Très bien,
Je confesse.
Antoine peut en profiter peut-être pour remontrer le palmarès de Guillaume avant de passer à la troisième partie où on va s'écarter un petit peu de cet aspect purement sportif avec le questionnaire de Bistro Vélo. Guillaume, est-ce que tu te souviens de tes premiers coups de pédale?
Bah les tout premiers coups de pédale,
Tout premier.
c'est quand j'avais 4-5 ans, et c'était ma grand-mère qui m'apprenait à faire du vélo sans les roulettes. Et c'était, oui, je me rappelle assez bien, en Normandie, au lieu-dit dans lequel j'ai grandi et où j'habite toujours. Ouais.
Est-ce que tu avais une idole de jeunesse? Peut-être que tu en as toujours une d'ailleurs.
Non, j'ai jamais tellement idolâtré des coureurs, des champions ou d'autres personnes. Alors il y avait des coureurs qui m'inspiraient, mais j'ai quand même toujours voulu tracer mon propre chemin et j'ai jamais été vraiment dans l'idée d'essayer d'imiter quelqu'un, par exemple.
Est-ce que c'est peut-être hors de la sphère sportive d'ailleurs que tu trouves des gens plus inspirants?
Je pense que des gens inspirants, par contre, on peut en trouver partout et on va piocher certaines choses par-ci, par-là et c'est comme ça qu'on se construit. Mais ce qu'il faut, à mon sens, c'est s'inspirer, c'est pas chercher à imiter. Et donc, il y a des philosophes, bien sûr, qui ont pu m'inspirer, mais il y a aussi des coureurs cyclistes, évidemment, qui ont pu m'inspirer et plein d'autres gens, bien sûr, qui font un parcours de vie.
Peut-être des endroits aussi qui inspirent. Quel est le plus bel endroit où tu penses avoir posé tes roues en course ou à l'entraînement?
Ah bah bien sûr, là où j'ai grandi, en Suisse normande, donc un coin de l'ouest du département de l'Orne, pour les rares qui ne connaissent pas la Suisse normande, un endroit de Normandie assez vallonné, assez préservé aussi, pas mal de bocages, et où on trouve des belles bosses. Il y a un peu ce cliché que la Normandie c'est tout plat, et c'est vraiment le cas. J'ai des côtes qui font jusqu'à 5 km, à 10 km de chez moi, d'autres qui sont plus courtes mais très raides, jusqu'à 30%. Donc j'ai un super terrain de jeu et des super paysages.
En tout cas, ça donne envie d'y aller. Enfin, les 30%, il
Genre,
faut être en condition, mais.
j'en fais une bonne pub, hein.
Ah ouais,
Faut continuer à
super.
faire de la pub. J'ai des. Ça c'est peut-être moins que le fait que j'ai fait de la philosophie, mais je gère aussi des gîtes, justement, sur le lieu où j'ai grandi, au domaine de la Baudrie, si les gens veulent se renseigner. Parfait pour
D'accord.
les cyclistes, les fans de vélo qui veulent aller faire du vélo.
Pour continuer dans les à côté, entre guillemets, de ta pratique professionnelle, quel est ton passe-temps préféré?
Donc, c'est vrai que j'aime bien dire j'aime bien aller au cinéma ou regarder des films. Malheureusement, oui, aller au cinéma quand on a une vie de cycliste, c'est finalement les occasions finalement sont relativement rares. Donc, je suis plus comme beaucoup de gens à regarder des films sur Netflix, notamment en course. Et j'aime bien cuisiner aussi. Voilà. Quelque chose assez classique, somme toute.
D'ailleurs, sur l'aspect culinaire, c'est particulièrement restrictif d'être coureur cycliste de haut niveau, ou on s'en fait peut-être une idée excessive et vous pouvez
Je
quand même vous
crois que
faire
quand j'ai.
plaisir.
En tout cas, moi, je pense que quand j'ai compris que ça servait pas à grand-chose de serrer la vis à fond, comme on dit. J'ai progressé. Enfin, je pense que quand on a un peu, oui, des a priori là-dessus, et surtout quand on est un jeune coureur, à se dire il faut surtout pas manger de produits gras, il faut voilà se priver, avoir faim, et finalement c'est délétère sur la performance, parce qu'on a besoin aussi d'énergie pour performer, on a besoin aussi de se faire plaisir pour être bien psychologiquement. Donc aujourd'hui, je suis voilà, je mange quand même à peu près ce que je veux, quand je veux. De toute façon, il y a une telle dépense énergétique qu'on moule quand même un peu tout. Et donc, je suis assez relax par rapport à ça aujourd'hui.
Quelle est ta course préférée?
Ma course préférée, j'hésite beaucoup entre Paris-Camembert, la Paris-Normande et le Tour de France, pour être honnête. Trois courses à peu près d'un niveau équivalent.
Mon quatrième de la Polynormande, hier, on le rappelle. Ça donne peut-être une idée d'un objectif similaire pour le Tour de France dans les années à venir. Le garçon qui t'impressionne le plus sur le vélo en ce moment, cette saison?
Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment impressionnants, mais peut-être que, ouais, au-dessus de l'eau, il y a Evenepoel, Van Aert et Pogacar, qui sont vraiment impressionnants, ouais.
Et à titre plus personnel, qu'est-ce que t'aimes le plus dans la pratique du vélo, même que ce soit professionnel ou dans le fait d'aller s'entraîner, etc. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le cyclisme?
Je pense le fait de voyager quand on est sur le vélo, de voir de nouveaux paysages, ou alors des paysages qu'on a déjà vus, mais les reparcourir. Et c'est quand même, voilà, quelque chose que je trouve vraiment toujours agréable après les années. Et puis voyager quand même. Alors là, ma conscience écologique en prend un coup, parce que évidemment, on prend beaucoup l'avion, on se déplace beaucoup. Mais malgré tout, je dois admettre que j'aime aller comme ça, d'un endroit à un autre, découvrir parfois de nouveaux pays, de nouveaux endroits, et d'aller dans des endroits dans lesquels peut-être je n'aurais jamais été sinon. Donc ça, moi, ça fait une partie des à côté du métier que j'apprécie, ouais.
Et comme d'habitude, pour conclure cette émission, ce qu'on propose à l'invité, en l'occurrence à Guillaume, c'est d'avoir le mot de la fin, un souhait à exaucer éventuellement, que ce soit dans le domaine sportif ou autre. Voilà, Guillaume, la parole est à toi pour ce mot de la fin.
Ah, ben en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai fait l'interview là au milieu de mon repas. Donc, je finissais le plat principal et mon souhait serait d'aller manger mon dessert. Dans l'idéal, dans un monde rêvé, ce serait une tarte aux pommes, bon normand. Et j'ai cru voir passer des tartes aux pommes justement en quittant la table. Donc, si je peux tout de suite aller, si vous pouviez me libérer pour aller manger des tartes aux pommes, mon bonheur serait complet.
La vie est parfois faite de plaisirs simples. Un plaisir
Voilà.
simple qui approche à grands pas, puisqu'on va terminer l'émission en vous montrant le programme de la semaine. Sur Eurosport, il y aura le Tour du Danemark, également, évidemment, le début de la Vuelta. On vous a noté à l'écran jeudi, parce qu'il y a la présentation des équipes, le début du Tour d'Espagne, un peu plus formel. La première étape, c'est pour vendredi. Voilà, vous avez le programme à l'écran. Encore une fois, on va se régaler en termes de vélo sur les antennes et sur l'application d'Eurosport. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Guillaume pour ta disponibilité. Et on se retrouve lundi prochain. Salut!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.